15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé, c'est tous les jours de 15h à 16h. Avec le docteur Jimmy Mohamed, chaque jour, pendant une heure, nous répondons à vos interrogations sur les sujets de santé qui vous préoccupent. D'ailleurs, il est là, dans le studio avec moi, le stéthoscope au cou. Alors, c'est pas vrai du tout, non. Bonjour Jimmy. Le stéthoscope, il est resté dans la mallette.
Hein. Exactement. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la santé psychologique de nos enfants. Comment ont-ils vécu cette période si difficile? Mais surtout comment les aider à passer tranquillement dans l'après-Covid et à leur préparer le meilleur été possible. Et puis, point important, quel peut être le rôle des grands-parents dans tout ça pour que toute la famille retrouve un équilibre? Vous verrez, il peut être crucial. Pour en parler, nous recevrons la psychologue Clémence Prompsy. Elle est psychologue donc et cofondatrice du cabinet Kids and Family. Ensuite, avec le docteur Jimmy Mohamed, comme tous les jours depuis que le coronavirus est un peu plus calme, nous répondons aussi à vos questions, mais celles qui concernent vos petits et gros bobos du quotidien. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission. Avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui, on s'intéressera aux relations entre belle-mère et belle-fille qui peuvent parfois mettre à mal certains couples.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Mais avant cela, pour ouvrir votre magazine santé, nous allons quand même faire un point rapide coronavirus. Et pour cela, nous accueillons en ligne le professeur Frédéric Adnet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du SAMU du 93 et des urgences de l'hôpital à Vicennes. On vous a très souvent invité dans cette émission pendant cette épidémie. Selon vous, d'un point de vue général, au moment où on se parle, on en est où en France? C'est terminé, la phase 2 du déconfinement, elle est lancée. Et il était temps, c'est bon, c'est derrière nous?
Oui, très clairement, on est en queue d'épidémie. On est en fin d'épidémie. Il reste ça et là des clusters, mais c'est normal parce qu'on a fait une politique massive de détection et donc plus on cherche, plus on en trouve. Mais il n'y a pas, si vous voulez, d'une manière significative, une augmentation de cas à hospitaliser ou encore moins en réanimation. Donc, très clairement, l'épidémie est derrière nous. Et on a toujours cette crainte de cette fameuse deuxième vague, mais qu'on ne voit absolument pas arriver, ni par des indicateurs solides comme le nombre d'entrées à l'hôpital, ni comme par d'autres indicateurs qui sont prédictifs, si vous voulez, de l'arrivée d'une deuxième vague, comme le nombre d'appels au SAMU, comme le nombre de recours en médecine générale. Donc pour l'instant, si vous voulez, le tableau est un vert très clair. Et sur le court terme, on n'a pas de crainte d'une remontée massive de cette épidémie.
Jimmy ?
Mais du coup, si vous dites que c'est un vert clair, on est malgré tout, votre secteur et celui de l'Île-de-France, en zone orange. Pourquoi on est encore en zone orange si tous les indicateurs sont au vert ?
Vert clair en plus.
Ça, il faudrait le demander à ceux qui ont mis l'Île-de-France en orange. Mais en tout cas, les indicateurs, eux, les indicateurs que l'on a dans nos tableaux de bord tous les jours et ce que je vois tous les jours quand je suis dans mon service et au SAMU de la Seine-Saint-Denis. Il faut savoir que la Seine-Saint-Denis, c'est le département qui a été le plus impacté.
J'allais dire, ça a été le plus chaud au moment de l'épidémie. C'est là où il y a eu vraiment un nombre de cas très, très, très explosif.
Exactement. Et s'il y avait une reprise, ça se verrait d'abord en Seine-Saint-Denis. Je peux vous dire que nos indicateurs sont vraiment en vert. Hier et avant-hier, pas un seul patient n'est arrivé avec une suspicion de Covid. Oui. Actuellement, sur tous les services des urgences, on pense que c'est 0,7% des patients qui sont Covid suspects. Donc, vous voyez, c'est plus rien du tout.
C'est même plus Covid plus,
donc,
c'est suspect Covid.
On est en fin d'épidémie. Voilà. Mmh. On est en fin d'épidémie. Je ne comprends pas les raisons qui ont fait qu'on soit encore en orange. En tout cas, pour moi, je suis en vert. Mmh.
Professeur Adnet, donc, d'après ce que vous nous dites, la vie d'après, ça y est, elle démarre, la vie d'après Covid. Ça veut dire qu'on peut tous retourner vraiment, je ne sais pas, au travail en présentiel, par exemple. Il n'y a plus de risque pour personne?
Non, le virus, on ne l'a pas tué. Le virus, la distanciation, les mesures barrières visent simplement à freiner l'épidémie. Donc, le virus, il est toujours là. Donc, il faut respecter encore la distanciation, les masques, les mesures barrières, le confinement c'est fini et il faut y aller comme on l'a fait, de manière progressive vers un déconfinement total, mais il faut, si vous voulez, encore raison garder, c'est-à-dire ne pas baisser la garde au niveau du port du masque et de la distanciation. On sait actuellement où se propage le virus, c'est dans la famille et dans les transports en commun, donc le point de vigilance il est dans ces deux endroits, les endroits confinés où il y a beaucoup de monde. Ensuite, le deuxième point de vigilance c'est les personnes à risque. parce que c'est une maladie bénigne, sauf chez les patients qui ont des facteurs de risque qu'on connaît très bien, et les patients âgés. Donc, c'est, si vous voulez, il faut combiner les deux. Garder une vigilance dans les endroits confinés, dans la famille, et protéger les personnes à risque. Pour le reste, les écoles, par exemple, on peut vraiment être un peu plus permissif.
Docteur Jimmy Mohamed.
Vous l'avez dit, les zones à risque, c'est les personnes à la maison. En intrafamilial, on ne porte pas de masque. Dans les transports, on est obligé de porter un masque. Mais du coup, on a le sentiment qu'il commence à avoir une forme de relâchement. Est-ce que vous savez ou pensez combien de temps qu'on va devoir encore porter des masques? Je ne sais pas, en allant faire les courses, et est-ce qu'il faut qu'on soit aussi strict qu'au début?
Écoutez, moi, j'ai pas une boule de cristal, mais ce qu'on voit, par exemple, en Chine, il n'y a pas eu de reprise de l'épidémie, alors que dans plusieurs grandes villes de Chine, il y a vraiment un déconfinement total. Alors, les Chinois gardent souvent le masque hein, sur la voie publique, mais ils ne l'ont pas à domicile. Donc, je crois que le port du masque dans les endroits publics, dans les endroits à risque, doit faire maintenant partie d'un certain mode de vie en attendant que la menace soit complètement écartée. Oui. La menace, elle est toujours là.
Elle peut durer longtemps.
Voilà, donc ça doit, on devrait maintenant peut-être l'intégrer dans notre mode de vie pendant un certain temps. Mais si vous voulez, sur le court terme, il n'y a aucun danger d'une reprise massive de cette épidémie. Et puis, combien même il y aurait un léger rebond, actuellement, nos capacités hospitalières sont très détendues et donc on est capable de l'absorber sans aucun problème.
On va parler un tout petit peu de la recherche avec vous, professeur Adnet. C'est quand même dingue hein, ce qui se passe ces dernières semaines, notamment avec la polémique autour de l'étude publiée dans le Lancet qui s'est rétractée. Enfin, c'est une claque à la recherche académique, tout ce qui se passe sur l'hydroxychloroquine autour de tout ça. Là, même l'OMS qui finalement reprend les essais cliniques cette molécule.
Il y a une grande confusion qui est liée probablement à la médiatisation à l'extrême de cette molécule, avec des annonces qui ont été faites au début sans rationnel scientifique. L'étude de Lancet, effectivement, ça a été un petit peu catastrophique puisque elle n'est pas rétractée, hein, mais elle est mise entre, on va dire, entre parenthèses,
donc il y a
des expertises, mais on sent quand même qu'on va vers une rétractation. Mais je vous signale qu'aujourd'hui même a été publié dans le New England un article cette fois-ci qui est très solide.
Ça, c'est l'étude qu'on attendait. Expliquez-nous ce que ça veut dire en double aveugle, randomisé
en double
pour nos auditeurs.
C'est-à-dire que là, ni le médecin ni le patient connaît le traitement qui lui a été attribué. Donc il y a un groupe qui a un placebo, c'est-à-dire pas de traitement, et l'autre a eu l'hydroxychloroquine. Et c'était un traitement préventif pour des patients qui étaient à risque d'avoir le virus puisqu'ils avaient été exposés avec des personnes, avec des malades. Et le résultat de cet essai, cette fois-ci, qui est un très haut niveau de preuve, qui est vraiment dans sa méthodologie inattaquable, ne montre aucune différence. Donc là, on est sûr que pour la prévention, je dis bien pour la prévention, l'hydroxychloroquine ne sert à rien. Là, on peut l'affirmer. Par contre, effectivement, vous avez mis le doigt sur l'étude du Lancet qui a affolé nos tutelles et d'une manière complètement incompréhensible nous a empêché de continuer nos essais sur l'hydroxychloroquine, alors même que dans les essais cliniques, si vous voulez, la sécurité d'emploi des médicaments à l'essai, elle est maximum. Il y a des comités de surveillance, il y a des règles de sécurité. Si un endroit où on risque le moins d'effets secondaires, c'est dans les essais cliniques parce que tout est hyper contrôlé.
Et tout ça, ça met l'étude du New England, c'est un peu celle qui vient de sortir, donc avec la méthodologie que vous venez de décrire, c'est vraiment celle qu'on attendait, qui est censée conclure l'affaire ou pas?
Oui, c'est la méthodologie qui permet de faire un lien de cause à effet. Parce que toutes les études, c'est pour ça qu'il y a eu tout ce grand bazar autour de l'hydroxychloroquine, c'est que aucune des études n'était conclusive, sauf celle qui vient de sortir, là, celle de New England. Vous savez, on a dénombré, il y a eu 15 000 articles sur le Covid-19. Vous savez combien il y a eu d'études randomisées, prospectives, vraiment, qui peuvent répondre à une question?
Non.
Il n'y en a eu que 10.
Ah oui.
Vous vous rendez compte? Donc,
on a travaillé dans la précipitation un petit peu quand même au niveau scientifique aussi.
Malheureusement, ça a donné cette image un peu de confusion extrême qui s'est fixée en France sur l'hydroxychloroquine. Mais elle est due simplement au fait que toutes les études, y compris celle de Marseille, mais celle de Lancet, c'est aussi un exemple, étaient des études sur lesquelles, effectivement, on pouvait discuter car elles n'étaient pas conclusive, c'est-à-dire qu'elle n'établissait pas un véritable lien de cause à effet. Sauf celle qui vient de sortir là dans le New England, qui correspond, si vous voulez, à une partie de l'emploi d'hydroxychloroquine, donc pas en traitement curatif, mais en traitement préventif. Là, on en est sûr maintenant. L'hydroxychloroquine ne permet pas, si vous voulez, en préventif, de ne pas être contaminé. Ouais.
Bon, on verra pour la suite. Merci beaucoup, professeur Adnet, d'avoir accepté notre invitation pour ce point coronavirus. Merci encore.
Europe 1.
Dans quelques minutes, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est la psychologue Clémence Promsy, avec qui nous allons prendre le pouls de la santé mentale de nos enfants. Comment les aider à retrouver doucement leur équilibre d'avant? Quel est le rôle aussi des grands-parents dans cette période qui a parfois mis à mal les liens familiaux? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Clémence Promsy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et cofondatrice du cabinet Kids and Family. Alors, Clémence, pendant le confinement, on va faire d'abord un petit bilan peut-être. Qu'est-ce que l'on peut dire? Est-ce que les enfants, ils ont morflé? Je dis ça un peu vulgairement, mais est-ce que vous en avez eu des retours, j'imagine? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez constaté?
Oui, alors on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de demandes de soutien de la part des parents. Morflé, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu autant de confinement qu'il y a eu de famille. J'ai l'impression que chacun a vécu les choses de façon vraiment individuelle. On a des enfants qui ont eu peur. Il y en a qui ont eu vraiment peur de ce phénomène un peu invisible, impalpable. Ils ne savaient plus s'ils allaient faire du mal à leurs grands-parents. Donc ils se sentaient coupables, ils voulaient faire très attention. Mais on a vu aussi des très beaux élans chez les enfants, très philosophes, de solidarité, tous ensemble contre la maladie. Enfin, voilà, il y a eu des vécus très différents dans chaque famille, mais on a eu beaucoup d'appels, notamment pour l'école aussi.
Ouais, c'était dur au niveau des liens sociaux. Est-ce que les petits, je ne sais pas, alors après ça dépend peut-être de l'âge, mais comment ils réagissent les enfants au manque de liens sociaux? Ça, vous l'avez senti aussi dans les retours de parents ou les appels que vous avez eus avec les enfants?
Alors, assez étonnamment, en fait, le manque de lien social, je l'ai surtout entendu de parents qui me disent ben, « il va très bien dans l'appartement, il ne veut plus entendre parler de rien d'autre que de papa et maman, et il va très très bien ». Et les parents sont parfois un peu handicapés parce qu'ils ont l'impression de l'avoir un peu régressé et que leur enfant est très content, voilà, ouais. Dans ce tout petit microcosme, ce qui ne convient pas forcément aux parents.
Ouais, alors ça, peut-être pour les petits, les plus grands, à mon avis, ils avaient plus de mal. Mais là, on parle plutôt des petits. Jimmy.
Mais justement, les petits ne regardent pas ou peu la télé, et donc ils n'étaient pas sur les chaînes d'information en continu. Et malgré tout, certains ont été stressés. Est-ce que c'est tout simplement le stress des parents qui déteint sur celui des enfants?
Ah oui, alors ça, c'est vraiment palpable. Les conversations, on a l'impression, alors vous disiez, ils ne sont pas sur la télé, mais parfois, des 4-5 ans, ils sont sur la télé, et si vous leur dites « va au bain », ils n'entendent rien. Mais par contre, si vous parlez du confinement, vous pensez qu'ils n'entendent rien. Et puis 15 jours, 3 semaines après, vous l'entendez ressortir textuellement la phrase que disiez au téléphone. Et vous vous dites « Ah oui, flûte, ils écoutent tout ». Donc finalement, si les parents sont très inquiets, bien sûr, ça va forcément un petit peu retomber dans l'atmosphère de l'appartement. Alors les gens n'ont pas à se sentir coupables. Il y a des gens qui ont eu des parents qui étaient covidés au tout début et donc disaient « ne touche pas ta maman, ne l'embrasse pas ».
Ça a dû les stresser un peu quand même.
Ouais. Et puis les parents avaient peur aussi que l'autre parent soit contaminé. Donc ils disaient « on va faire comment si tout le monde a le Covid? Qui va vous donner à manger ?» Enfin bref, des conversations qui étaient un peu anxiogènes. Et on le comprend bien que les parents aient pu être angoissés. Mais forcément, notre angoisse retombe sur eux.
Certains enfants sont déjà retournés à l'école. À l'école, pas tous. On sait que finalement, le nombre d'enfants sur les bancs de l'école est assez faible encore. Est-ce qu'il y a eu des enfants qui ont été obligés d'y retourner, entre guillemets, et qui ont craint ce retour à l'école? Vous en avez eu des anxieux du retour à l'école?
Oui, un peu comme tous les mois de septembre, version plus. Il y en a qui ont peur, effectivement. Il y en a qui ont eu du mal à ressortir dehors. Après, je crois qu'il faut avoir vraiment confiance dans nos enfants. Ils s'adaptent quand même très, très vite, dans un sens comme dans l'autre. Moi, je suis assez sidérée par leur flexibilité. Au bout de 3-4 jours, un peu comme en septembre, finalement, c'est normal de pleurer 5 minutes, c'est normal d'être un peu angoissée. On peut commencer à s'inquiéter peut-être si votre enfant a mal au ventre tous les soirs, veille d'école, pendant une semaine, deux semaines. Là, il a besoin d'un coup de main, il faut qu'on l'aide.
Jimmy ?
L'école a réouvert, mais dans des conditions un peu particulières. Une école quasi militaire, ça ne ressemble plus à l'école d'avant. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact émotionnellement chez les enfants qui n'ont plus le droit de jouer ensemble, à la récréation, ils doivent être loin les uns des autres, manger à table, pas au réfectoire? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir finalement plus de répercussions négatives que celui de la protection dite contre le coronavirus ?
de ma minuscule expérience au cabinet et des appels qu'on a, je trouve que ça va. Je trouve que les enfants ne
ils
se plaignent pas tellement de
ouais,
ça.
Ils s'adaptent à ça aussi.
Oui, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles. Soit c'est 3 heures par jour, oui. soit c'est une journée et demie. Donc finalement, il reste quand même 5 jours quasiment de week-end. Donc ça a fait une petite différence, ça a marqué un peu le coup, ça a fait ressortir, ça a brassé un peu l'air, quoi. Ça a mélangé un petit peu les mondes. Bon voilà, c'était une façon de rediluer un peu nos univers. Voilà, j'ai pas fait d'études, mais de nos appels, j'ai l'impression que ça va à peu près quand même.
Et pour ceux qui sont pas retournés à l'école, parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas voulu les remettre à l'école, ceux-là, donc ils continuent l'école à la maison, c'est pas que ce soit un plaisir, hein, parce que beaucoup de parents ont témoigné même dans cette émission pour dire que c'était très difficile, on a eu pas mal de questions en ce sens. L'école, on n'est pas prof, donc c'est compliqué. Il y en a beaucoup, moi j'entends, qui disent maintenant, bon ben maintenant on bâcle l'école, c'est 2 heures le matin, hop, c'est réglé, ou en une heure c'est fini. C'est normal qu'il y ait un petit découragement là aussi au bout d'un moment, enfin ceux qui continuent l'école à la maison, comment on gère ça?
Oui, alors c'est vrai que je suis d'accord avec vous, on a eu beaucoup d'appels sur l'école, les gens ont vraiment beaucoup souffert de ça, c'était vraiment difficile, et les enfants et les adultes. Moi j'encourage tout le monde à protéger et privilégier notre relation avec nos enfants, plutôt que notre lien et notre rapport à l'enseignement et à l'école. Si on y arrive, bah c'est super, et si on n'y arrive pas, on essaye de ne pas se hurler dessus pendant 3 heures parce que ça ne marche pas. Mieux vaut avoir 3 mois de grandes vacances que des hurlements et des tables de multiplication qui rentrent dans la douleur. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais toujours quand on a les grandes vacances, au mois de septembre, les gens qui revoient nos enfants disent « Oh, qu'est-ce qu'il parle mieux ? Qu'est-ce qu'il a grandi ?» Finalement, je crois que le meilleur terreau...
Aussi,
ouais, voilà, le meilleur terreau, pour la maturité en tout cas, c'est quand même notre contact. Parce qu'on va philosopher, on va se poser des questions, on va leur parler plus, en fait. Ils auront plus accès à nous. Et donc, ils apprennent autrement. Ouais. Moins bien la conjugaison, mais...
Merci beaucoup, Clémence. Ne bougez pas, on ne fait que commencer cet entretien. On vous retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, on rentre un peu plus dans le concret. Comment remettre nos enfants sur les rails, au moins psychologiquement, après ce que nous venons de traverser? Comment rassurer les plus jeunes sur ce monde d'après qui nous paraît déjà, à nous, encore assez incertain? On en parle juste après. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et la psychologue Clémence Promsi. Clémence, comment remettre de l'ordre là maintenant, après 2 mois et demi de colonie de vacances, on va dire? Enfin, en tout cas, vu du côté des parents, peut-être c'était pas la colo, enfin c'était pas ambiance colo, c'était un peu stressant. Beaucoup de parents sont à bout. Si on a encore l'école à la maison, ou alors l'école un jour sur deux, enfin comment on essaye de se recadrer là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre un peu d'ordre dans tout ça?
Oui, alors pour essayer d'être concret, c'est vrai que nous, on a essayé de dessiner des supports pour que les gens puissent les organiser de façon très personnalisée. On invite les familles, en fait, à mettre des règles un peu pour les jours off et les jours école, et essayer de booster les rituels, d'avoir vraiment une sorte de... Chaque geste en appelle un autre. Les veilles d'école, on fait ça, 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 et à 8h30, qu'on ait sommeil ou pas, on essaye d'aller se reposer. Et quand on se réveille le matin d'école, eh ben, il n'y aura pas de télévision. Je dis des choses en vrac parce que je ne suis pas là pour donner des leçons. Mais vraiment, s'appuyer sur des rituels. Il n'y a pas les mêmes rituels quand on se lève les jours d'école et les mêmes rituels quand on se lève les jours de week-end. Et les enfants sont très sensibles à ça, en fait. Ils savent que voilà, chaque chose en appelle une autre. Ça peut aider.
On met un cadre, on met des rituels. Jimmy ?
Mais comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ces rituels quand on a une école un peu à trous, un jour oui, un jour non, parfois des demi-journées ? C'est peut-être compliqué pour les enfants de s'adapter. Du coup, bah, les rituels, c'est peut-être un peu, je sais pas, plus compliqué, encore plus dur que d'habitude ?
Tout à fait. C'est vrai qu'il faut qu'on soit un peu ingénieux. L'idée étant justement de pouvoir le regarder de loin, vous pouvez essayer de planifier les choses sur un petit emploi du temps.
Vous, je crois que vous proposez un emploi du temps un peu comme un jeu de loi, hein, c'est ça ?
Oui, nous, on a dessiné quelque chose comme un jeu de loi où l'enfant, en fait, va pouvoir repositionner, s'habiller, mettre son cartable, faire les devoirs à la maison, faire les devoirs à l'école et tous les aléas de nos journées qui sont complètement en patchwork en ce moment pour nous tous. Et donc, en fait, tous les soirs, on peut regarder l'emploi du temps de demain ou de la semaine et dire, ben voilà, lundi, mardi, c'est comme ça, mercredi, c'est comme ça. Puis alors, il y a plein de personnes qui viennent garder nos enfants maintenant qu'on est un peu déconfinés et on essaye de jongler. Donc, il y a plein de visages. Ça peut être très rassurant pour les... 5-10 ans, de savoir que lundi, c'est telle personne qui vient vous chercher à la sortie d'école, que mardi,
aussi,
c'est un tel
c'est
qui vous
ça...
fait déjeuner.
Les repères sont complètement perdus quand même, hein, parce qu'un jour c'est nounou, un jour c'est nounou A, un jour c'est papy, un jour c'est nounou B, un jour c'est maman, papa, enfin c'est très compliqué, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même plus flexibles que nous les enfants, d'après ce que vous dites, hein, parce que nous on est très perturbés, mais eux peut-être moins que nous, on a l'impression.
Oui, nous, on se paye des thérapeutes pour faire de la pleine conscience. Eux, ils sont déjà dans la pleine conscience. Eux, ils sont dans « qu'est-ce qui se passe dans 5 minutes ?» C'est un peu ça. J'exagère, mais à peine. Ils n'ont pas besoin de savoir les choses un mois à l'avance. Déjà, de dire « cette semaine, pour les 4 jours à venir », c'est déjà très bien pour eux. Et ils vont vous redemander, demain soir, ils vous redemanderont ce qui se passe mercredi parce qu'ils auront déjà oublié. Mais ils peuvent s'y référer. Si vous mettez un petit emploi du temps...
Ouais, ça peut les aider.
Voilà, ils peuvent y aller eux-mêmes, alors aller regarder, vérifier, rayer les jours le soir, etc. Jimmy. Et puis ça les rend un peu acteurs avec nous.
On vous avait reçu dans une émission précédente et bizarrement, avec le confinement, malgré tout, j'ai l'impression qu'aux enfants, on leur demande toujours de se dépêcher alors qu'on est censé avoir du temps. Il fallait faire vite pour faire les devoirs, vite pour manger, s'habiller. C'est pas un très bon moyen d'épanouissement, ça, de mettre la pression aux enfants pour qu'on fasse tout et vite et rapidement.
Non, c'est sûr que c'est surtout que ça prend beaucoup de place dans notre relation. Et les enfants, parfois, nous disent « moi, j'ai pas envie d'être grand ». Ça n'a pas l'air drôle, en fait, d'être grand. On fait que
c'est vrai, c'est pas
avoir
drôle,
peur d'être en retard. Voilà. Il faut
nous, on veut redevenir petit avec Jimmy, on a décidé, par contre.
Ah oui, oh là.
Il y a des parents là qui n'en peuvent plus, quand même. Hein. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Parce que bon, là, il y a encore un mois d'école.
Et puis, il y a 2 mois de vacances, après, encore.
Ouais, hein. Puis après, là, juste penser qu'il y a, en plus, il y a les 2 mois qui reviennent de reconfinement familial. Là, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour nous souffler aussi un peu? Bon, vous avez invité pour parler des enfants, mais on a envie de parler un peu de nous, des parents aussi.
Finalement, pour les parents aussi, ça va être très bien. Alors, je pense qu'il y a pas mal de parents là, qui vont traverser la France pour aller chez les grands-parents.
Voilà, on en parlera juste après. Ouais.
Et puis après, on peut quand même, je pense, commencer à réinviter quelques copains de classe pour nos enfants, dans les jardins, dans les squares, en restant en plein air et en respectant encore quelques gestes barrières pour pas trop longtemps, j'espère. Mais déjà, les enfants vont s'aérer, s'occuper différemment et donc nous rendre un tout petit peu de temps pour nous. Généralement, quand il y a un copain, ça met un petit peu de bazar, mais bon, s'ils sont dehors,
au moins ils s'occupent entre eux, hein, c'est ça. Merci beaucoup.
Ils peuvent s'occuper entre eux.
Clémence, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Europe 1. Sans rendez-vous revient dans un instant. Nous parlons du moral de nos enfants. Aujourd'hui, on va s'intéresser, c'est très important à présent, au rôle des grands-parents. Ils ont un rôle très important auprès des petits qui ont été pour certains très perturbés par cette crise. Certains vont les récupérer d'ailleurs dans les semaines qui viennent. Les tout-petits qui sortent de ce cocon familial un peu chamboulé. On vous en dit plus juste après. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Et avec nous toujours en ligne, c'est vous, Clémence Prompsy. Vous êtes psychologue et cofondatrice du cabinet Kids and Family. Alors Clémence, avec le déconfinement et la reprise du travail, certains parents vont sans doute laisser les enfants. Je vous avoue, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Je me sens très concernée. Et on va bientôt les laisser chez papy-mamie pour avoir la paix. Enfin non, pour les garder. Comment on peut faire pour que ça se passe au mieux? Je crois que vous dites qu'il y a 2 types de grands-parents déjà. Pour la plupart, c'est quand même... Enfin, je sais pas, Jimmy m'en parlait là, juste avant, pendant le disque. Lui, chez ses parents, les enfants, ils ont l'impression que c'est la colo. Hein.
Oui, c'est ça, heureusement. Il y a plein de grands-parents qui s'amusent à être beaucoup moins stricts avec leurs petits-enfants qu'ils n'ont pu l'être avec leurs enfants. Peut-être ce qui peut les aider, les grands-parents, c'est qu'on sonde bien, avant de leur déposer les enfants, ce qu'ils trouvent, eux, difficile. Par exemple, est-ce que ça t'embête qu'ils ne se tiennent pas parfaitement à table? Est-ce que ça t'embête qu'ils se couchent un peu trop tard? Qu'est-ce qui est difficile à vivre pour toi et pour papa, etc. Et peut-être qu'en sondant leurs difficultés, on peut se mettre d'accord entre adultes, donc les grands-parents et les parents, pour dire, voilà, par contre les chatons, vous aurez le droit de faire ci, de faire ça, on a acheté un trampoline, vous irez une fois au zoo, peu importe, il y aura plein de trucs chouettes, on mange des glaces au petit-déj. Par contre, il y aura 2 règles, 3 règles.
Et celles-là, il faut les respecter.
Voilà. Ouais. Et celles-là, il faut les respecter parce qu'il y aura telles conséquences. Je ne sais pas quoi, moi. Si vous allez au marché, vous n'avez pas le droit de vous enfuir. Si vous avez le droit d'aller à la plage. Et si vous le faites, eh ben, le lendemain, vous ne pourrez pas y aller.
Vous vous échappez pas, on fait pas courir papy et mamie, Jimmy.
Exactement, mais avec je vous qui dis n'importe quoi, mais voilà, à personnaliser. Quoi.
Avec qui on fixe les règles? Parce que moi, si je donne ces consignes à mes parents, qui vont garder mes enfants, elles ne seront absolument pas appliquées. Ils vont me dire oui, allez, occupe-toi, va-t'en.
Bon, après, tant qu'ils les gardent, vous vous en fichez en réalité.
Oui, mais après, c'est vrai qu'on les reçoit, on les récupère dans un état d'excitation absolument catastrophique. Mais avec qui on fixe les règles? On donne les règles aux enfants, est-ce qu'ils vont vraiment les appliquer? Aux deux, on fait comment?
Alors là, cette idée-là, c'était vraiment pour soulager des grands-parents qui pourraient vous dire « Ok pour 3 semaines, 1 mois, mais ça va me fatiguer tel ou tel sujet ». Et s'ils ne vous disent pas ça, banco, laissez les enfants et dites juste rendez-les-moi vivants dans un mois et moi, ils seront surexcités et je verrai. Mais vous direz déjà après un mois, ça ira déjà beaucoup mieux pour vous.
Mais il y a certains enfants quand même qui ont adoré, hein, on le disait tout à l'heure, cette période de confinement avec les parents H24, qui peuvent ne pas avoir très envie d'aller chez les grands-parents, parce que se séparer des parents après tant de temps, bah, c'est parfois difficile. Ceux-là, comment on fait pour les, pas pour les forcer, mais pour les motiver, on va dire, à partir chez papy et mamie, ouais.
Alors peut-être quand même chez les grands-parents que ça peut être sympa d'être vraiment gavé de jeux, quitte à les acheter d'occasion et de prendre des gros lots. Mais on peut être encore livré de trucs assez rigolos et c'est vrai qu'un trampoline ou un...
Moi je crois que tout est prêt chez les grands-parents, hein, c'est bon, ils vont s'éclater, c'est sûr, c'est bien, c'est prévu.
Normalement si tout est prêt...
Les grands-parents s'organisent un peu en général, ouais, d'accord. Et, voilà. Et une fois qu'ils sont chez les grands-parents, petite question très très importante, moi je sais que mon fils il me dit on s'appellera tous les jours. Est-ce qu'il faut les appeler tous les jours? Puis en plus ça dépend de l'âge de l'enfant, moi j'en ai aussi une qui est plus petite qui a 2 ans, est-ce qu'on appelle, est-ce qu'on fait des vidéos, à quel rythme, c'est quoi votre conseil là-dessus?
Oui, vous avez raison, c'est très important. Alors, c'est vrai que les plus petits, on essaye d'éviter la vidéo. Ce que vous pouvez dire à votre fils, c'est qu'il vous appellera quand il en aura envie. Voilà. Et que c'est mieux que ce soit lui qui vous appelle, dès qu'il en ressent le besoin. Mais que ce serait dommage que vous l'appeliez à un moment où il s'éclatait sur le trampoline ou dans la piscine, et vous lui faites penser à vous alors que justement il allait très bien. Donc le deal entre vous, le code secret, c'est que c'est lui qui appelle quand il en a besoin. Mmh. Et que quoi qu'il arrive, vous penserez à lui tous les jours, toute la nuit, toute la vie pendant un mois.
Bon, c'est pas vrai,
et donc,
mais
de
c'est
toute
pas
façon, peut... non, bien sûr. Mais il ne peut pas douter de l'amour que vous lui portez et du fait que vous pensez à lui. Mais par contre, vous préférez que quand il s'amuse et que quand il a envie, il vous appelle. D'accord. C'est lui qui donnera le tempo.
Mmh. Jimmy.
Mais si on n'a pas d'appel du tout, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que malgré tout, on appelle les grands-parents pour savoir si tout se passe bien?
Jimmy, ses enfants ne l'appellent jamais quand ils sont chez les grands-parents.
Oui, non, ils sont très bien, ils ne veulent absolument pas m'appeler, mais du coup, on prend des nouvelles avec les grands-parents. Alors moi, je les appelle parce que j'appelle mes parents, mais on doit quand même prendre des nouvelles.
Jimmy, on veut l'adresse de vos parents. Et évidemment, vous pouvez appeler les adultes. Alors voilà, mais ne demandez pas forcément à parler à vos enfants. Faites confiance à vos enfants. Du moment que vous dites, tu seras autorisé à m'appeler dès que tu en auras, on ressentira le besoin. Normalement, vos enfants donneront le tempo. Et les petits, on essaye effectivement d'éviter la vidéo et on essaye aussi d'éviter d'appeler le soir. Voilà.
Ah oui, avant le coucher, parce que ça peut faire un peu d'angoisse, c'est ça?
Oui, et puis ouais. Faites confiance aux grands-parents. Finalement, rien ne remplace un câlin de la personne qui est vraiment sur place, quitte à ce qu'on parle de l'appel des parents en disant « Et si on l'appelait demain matin ? Et qu'est-ce qu'on racontera à maman demain matin ? Qu'est-ce que t'as préféré aujourd'hui ? C'était marrant quand on a vu le chat courir après la souris. Bon, j'imagine que tous les grands-parents sont à la campagne, mais c'est peut-être pas le cas. Voilà. Et vous envoyez des images dans son esprit, et vous êtes là, et vous faites un câlin. Et c'est plus rassurant finalement que de passer un coup de téléphone à quelqu'un qui est quand même manifeste son absence. Voilà, ce téléphone, il va quand même relancer la séparation parce que on n'est pas là physiquement, on n'est pas là.
Jimmy,
En ce moment, certains grands-parents font l'école à la maison justement pour les enfants, ceux qui doivent les garder. Et parfois, on a l'impression que ça se passe même mieux avec les grands-parents qu'avec nous.
On est un peu jaloux.
On est un peu jaloux. C'est un peu frustrant de se dire
comment ça se fait que ça se passe mieux avec les grands-parents.
Ils sont plus sympas.
Peut-être que ça entache moins leur relation, que le côté écran visuel aussi fait un média. Et puis, nous, les parents, on a tout le reste. On a « tiens-toi bien à table, va te coucher, lave-toi les dents, viens prendre ton bain ». Les grands-parents, finalement, ils ont leur petit sas où ils focus, donnent toute leur attention. Et donc, ils ont peut-être un petit peu plus de patience que nous puisqu'ils n'ont pas le reste de la journée. Mmh. Donc, peut-être qu'ils sont plus patients que nous aussi.
Ils sont plus patients, de toute façon, globalement, avec nos enfants tout court. Hein. Moi, j'ai l'impression, effectivement, ils n'ont pas toute l'année.
Ils n'ont que le côté positif, soyons honnêtes. Hein. Ils n'ont plus le côté d'éducation.
On les adore, on embrasse tous les grands-parents qui nous écoutent.
On les remercie chaleureusement. On est très heureux. Parce que, franchement, ils nous sauvent la vie.
On les adore, évidemment.
Et on les remercie.
Exactement.
Combien, Max, justement, on peut laisser les enfants chez les. Moi, vous voyez, je veux qu'elle me donne un curseur très, très, très loin. Je sais pas, 2 ans, 3 ans, non, je plaisante, mais 15, on parlait de 15 jours, 3 semaines. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une durée maximum qu'il faut pas dépasser en fonction de l'âge, peut-être? C'est à un moment donné, ils ont quand même besoin de revoir leurs parents, ces enfants-là. Donc, c'est quoi le conseil que vous pouvez donner de ce côté-là?
Oui, bien sûr, vous avez raison, ils vont avoir besoin de voir leurs parents, mais mieux vaut voir des parents reposés que de se sentir obligé de faire des allers-retours, de ne les laisser que 15 jours pour leur crier dessus toute la journée parce que finalement, on n'a pas assez travaillé, qu'on est complètement dans le jus.
Mais ce conseil-là, il est valable toute l'année. Je veux dire, même hors Covid, quand on les envoie l'été, combien de temps sans parents, on peut les laisser chez les grands-parents sans que ça leur pèse trop, quoi.
ça dépend des enfants. Moi, je pense qu'on peut leur faire confiance et que si vraiment rien ne va plus, vous pourrez toujours prévoir d'avancer un train ou d'organiser les choses autrement ou de faire moins l'année d'après. Moi, je crois qu'on peut faire confiance et à nos enfants et aux grands-parents pour nous dire si ça ne va pas et que ça n'est pas forcément inscrit... À moins que vous ne partiez à Honolulu, auquel cas vous ne pouvez pas venir les chercher.
Auquel cas on va avec eux à Honolulu, surtout, attendez, je vais pas rester moi ici, les envoyer à la plage. Dernière question, en ce qui concerne la fratrie, est-ce qu'il faut les séparer ? Parfois le confinement a été compliqué entre frères et sœurs. Est-ce que ça peut être le moment d'essayer d'en garder un et d'envoyer l'autre ? Ou au contraire, on envoie le paquet tous ensemble chez les grands-parents aussi ?
Alors aussi, tout ça à personnaliser, peut-être juste être attentif à ne pas attiser des rivalités qui étaient déjà exacerbées dans une famille.
Parce que si on en garde un, dernier... celui qui part, il va avoir la sensation d'être abandonné. Hein.
Non, oui, ou l'inverse en tout cas, qu'on peut en envoyer trois et en garder un, et que le petit dernier va se dire bah, « moi je suis vraiment le gros bébé, voilà, moi je suis pas dans le groupe ». Enfin, un enfant peut projeter tout un tas de choses dans un sens comme dans l'autre finalement, être celui qui reste ou celui qu'on envoie.
On peut alterner aussi, on en garde un pendant 15 jours et puis bah, hop, on échange. Après, ça peut être pas mal aussi, ça, non, peut-être ?
Oui, et puis ça dépend des grands-parents. Il y a des grands-parents qui vont vous dire « je préfère avoir les deux parce qu'ils jouent ensemble ».
C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais à deux, c'est mieux hein, quand même, pour les occuper, quoi, hein, c'est ça.
Pas mal quand même.
Mmh. Jimmy,
donc on ne culpabilise pas, on les envoie tranquillement. Si les parents sont en capacité de les recevoir, on peut sereinement les laisser et on les a eu deux mois. Bon,
chacun son tour.
Et on verra à la rentrée, non ? On peut y aller.
Je pense même que ça peut être positif aussi de faire une coupure parce que là, on va frôler les six mois de grandes vacances dans des appartements. C'est bien aussi de couper pour l'esprit et de se dire, voilà, il y a eu le Covid, les parents vont tous un peu travailler, il y aura les grandes vacances et il y aura la rentrée de septembre. Ça peut couper aussi dans l'esprit des enfants. Et puis, il y a du bon à prendre, je pense, dans toutes les expériences, même dans celles où parfois on a un peu le cafard et où on a besoin d'appeler son papa ou sa maman.
Merci beaucoup Clémence Prompsy d'avoir accepté notre invitation et merci pour tous vos conseils qui auront intéressé, j'en suis sûre, de nombreux parents et même des grands-parents qui nous écoutent. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Santé revient. Ce sera le vrai faux avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous allons répondre à vos questions santé, bien-être, celles que vous nous laissez sur notre répondeur au 3921. On revient très vite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. À présent, on retrouve notre vrai faux, vos questions santé bien-être au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Maxime.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, c'est Maxime à Chartres. On entend beaucoup que l'alcool, enfin trop d'alcool, c'est mauvais pour la santé, surtout pour le cerveau, mais que ça provoque vraiment au niveau neuro. C'est quoi les risques d'AVC par exemple et à partir de quelle dose ? Merci d'avance, bonne émission.
Voilà, donc pour répondre à la question de Maxime sur les dégâts de l'alcool sur le cerveau, nous avons préféré interroger un spécialiste, un addictologue qu'on a déjà invité sur ce plateau. C'est le docteur Laurent Carilla, on l'écoute.
Le risque zéro n'existe pas pour l'alcool. Dès un verre, il y a un risque en fait. Il y a un risque pour la santé, il y a un risque pour le cerveau. Et plus on consomme de manière répétée et excessive, plus il y a des risques pour les organes. Pour le cerveau, un risque d'hémorragie cérébrale, donc un accident vasculaire hémorragique, hein, donc le cerveau qui saigne. Ça peut être induit par une augmentation de la tension artérielle qui va entraîner ces désordres au niveau du cerveau. Et puis au niveau cérébral, il y a aussi le risque d'addiction qui peut s'installer et le risque de complications psychiatriques qui en dépendent, c'est-à-dire il y a des risques de dépression, des risques de troubles anxieux, des risques de troubles du sommeil. Peu importe l'alcool, souvent les patients disent « moi je ne bois pas d'alcool fort ». Mais les alcools forts et les alcools faibles ou les alcools doux, ça n'existe pas. Il y a une concordance entre les différents types d'alcool. Si vous voulez, un demi de bière, c'est égal à un baby de whisky, c'est égal à un petit shot de gin, c'est égal à une coupe de champagne. Donc, tout est équivalent. En gros, il faut se dire un verre standard, c'est 10 grammes d'alcool. Combien je me mets de grammes d'alcool dans la tête quand je commence à consommer ?
Très bien, voilà la réponse donc du docteur Carilla qui était au micro de notre journaliste préféré Benjamin Lévesque. À présent, on va passer à la deuxième question d'auditeur. C'est celle de... Allez, pour vous Jimmy, c'est la question de Coraline dans les Hauts-de-France, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'avais une petite question. Je voulais savoir pourquoi quand on se cogne la tête, on a une bosse. Merci pour vos réponses.
Jimmy, alors une question sur les bosses. Il n'y a aucune question bête dans cette émission, bien sûr. Jimmy, quand on se cogne, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi finalement, mais c'est vrai qu'il y a une bosse qui peut apparaître. Mais pourquoi tout d'un coup, en fait, concrètement, il se passe quoi physiologiquement pour
alors,
que cette bosse
lorsque vous avez un traumatisme, un choc, vous avez des petites artères sous-cutanées qui vont se rompre et qui vont former une collection de sang dans les tissus sous-cutanée, sous la peau. Et comme il n'y a pas d'effraction cutanée, c'est-à-dire que votre peau n'est pas ouverte, eh bien, le sang s'accumule et forme tout simplement la bosse. C'est du sang qui s'accumule après un choc, tout simplement.
D'accord, une collection de sang. Je ne connaissais pas ce terme-là. Il y a bosse et bosse, hein, cela dit, Jimmy. Plus on tape fort, plus on a le risque d'avoir l'œuf de pigeon.
Oui, alors ça dépend aussi de la localisation. On a plus facilement des bosses au niveau du crâne, puisque c'est beaucoup plus vascularisé et donc beaucoup plus d'artérioles et de petites artères qui vont donc saigner plus facilement. Vous avez la même chose sur le visage et plus vous tapez fort, plus vous avez des petites artères qui vont se rompre. Et on peut avoir une analogie similaire avec la cheville. Plus vous faites une entorse de cheville sévère et grave, plus celle-ci gonfle parce que vous avez de nombreux vaisseaux qui vont se rompre. Mmh. Donc c'est évidemment proportionnel à l'intensité du choc que vous pouvez avoir.
Mais est-ce qu'on peut avoir une bosse pour rien, c'est-à-dire sans s'être cogné? Ça arrive. Parfois, c'est vrai qu'on découvre un truc ou sur la tête d'un enfant, on n'a pas vu que c'était cogné.
Il faut se méfier quand c'est vraiment, on a des hématomes ou des bosses comme ça qui apparaissent sans explication. Alors parfois, le traumatisme est passé inaperçu, l'enfant ne nous a pas passé en compte,
exactement. Voilà.
Par contre, ça peut être révélateur d'une hémophilie, notamment chez les petits garçons lorsqu'ils sont plus petits, des hématomes spontanés. Et puis, il ne faut pas oublier que des personnes sont souvent sous anticoagulants, soit en prenant de l'aspirine, du cardégique ou de vrais anticoagulants. Et là, un tout petit traumatisme peut entraîner des bosses. En revanche, si vous dites c'est bizarre, ça ne ressemble à rien, eh bien, ça peut être aussi un nodule, une autre tuméfaction, et raison pour laquelle il faut consulter si vous n'avez pas d'explication simple, surtout si ça se répète.
Juste pour terminer, on a l'impression que les enfants, ils ont plus de bosses que les adultes. C'est juste parce qu'ils se cognent plus ou parce que la peau est plus fine,
C'est lié au fait que la peau, effectivement, vous l'avez dit, c'est plus fine et tombe plus facilement. Et en plus, lorsqu'ils tombent, ils ont moins de mécanismes de réflexe pour se rattraper. Ils tombent du haut de leur poids du corps. Et puis, on met surtout de la glace pour permettre une vasoconstriction. Et l'arnica qu'on donne tous n'a jamais fait preuve de son efficacité, même si ça nous fait plaisir d'en donner sans aucune justification.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Coraline, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé-bien-être au 3921, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, on va retrouver Catherine Blanc et sa chronique sexo, comme tous les jours. Mais avant ça, un peu de musique avec le chanteur Vianney. Ça s'appelle « N'attendons pas ».
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc en studio avec nous. Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous?
Je vais bien et vous, Mélanie?
Écoutez, parfaitement. Jimmy aussi, il est tout content. Là, vous êtes là dans le studio. C'est le meilleur moment de l'émission pour lui. Alors Catherine, on va répondre à cette question de Noémie. Noémie, elle a 40 ans et elle nous écrit la chose suivante. Mon mari m'a annoncé que l'on passerait une semaine de vacances cet été chez sa mère, qui a une maison dans le sud. Cela m'angoisse car elle a une telle emprise sur lui. Il dit oui à tout ce qu'elle demande et se permet même de critiquer ma façon d'élever nos enfants. Que dois-je faire pour que tout se passe bien? Alors bon, là, les conflits belle-mère, belle-fille, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Comment on explique que le mari de Noémie dise tout finalement à ce que sa mère, parce que c'est ce qu'elle lui reproche, à ce que sa mère lui demande?
En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on a beau être un mari, un papa, auprès de ses parents, surtout sur le territoire des parents, on redevient très volontiers l'enfant de son parent. On se remet dans une situation où on oublie sa propre autorité, sa propre lecture, ses propres créativités sur l'idée que l'on se fait de comment on élève un enfant ou on ne l'élève pas, etc. Et une maman, dans la mesure où elle reçoit, elle s'attend aussi à ce que
son enfant redevienne son enfant.
Exactement. Mmh. Et donc, du coup, elle est pleine de conseils, qui sont plutôt parfois des ordres, parce que, évidemment, ce serait remettre en question l'éducation de ma maman si je lui disais que je ne veux pas qu'on fonctionne de telle et telle manière. En fait, toute la difficulté quand on est parent, c'est de dire à nos parents que nous entendons élever nos enfants autrement, sans pour autant qu'ils entendent que c'est un jugement de leur façon d'avoir éduqués.
Exercice
et c'est ça qui est extrêmement
compliqué.
Exactement.
Surtout que quand nos parents nous regardent, ils nous voient toujours comme leurs enfants, des enfants, et même on a beau avoir 30, 40, 50, 60 ans, peu importe, on reste leurs enfants. Et donc est-ce qu'on ne devrait pas, le temps d'une semaine, laisser couler l'affaire et puis on va s'en remettre? On a 51 autres semaines pour asseoir notre autorité sur les enfants et faire un peu ce qu'on veut, non?
Ah, mais je crois que c'est ce qui se passe justement, sauf que pour la belle-fille, n'est pas du tout
elle
la même chose.
C'est pas la fille de la maman. Hein,
c'est donc ça. Le fils évidemment considère que c'est plutôt cool et puis comme ça,
maman
justement,
s'occupe de tout.
Maman s'occupe de tout et elle prend la responsabilité.
Ça vous parle,
Jimmy? Oui, c'est très très bien ça. Voilà. C'est semaine de vacances.
Exactement. Sauf qu'il y a une autre femme qui elle se sent remise en question sa maternité par une femme qui n'a pas été sa mère et qui a évidemment qui en plus infantilise son mari, qui du coup cautionne le fait que le mari soit un peu dans le relâchement quant à son rôle. Et évidemment que ça devient la guerre des clochers entre maman et entre l'épouse et la belle-mère, ce qui crée évidemment des tensions dans le couple, puisque justement, il y a un fils qui est tout content de retrouver la douceur du giron maternel et une femme qui revendique d'être reconnue par son mari comme étant légitime. Et donc, il monte au créneau contre sa mère, ce qui est compliqué, parce qu'évidemment, que si on est parti de chez sa mère et qu'on est allé aimer ailleurs, c'est qu'évidemment, on voyait dans une autre direction. Et si il faut venir en disant « je te préviens maman, ce n'est plus comme ça, de ton temps c'était comme ça, mais ma femme elle veut que je veux non, que tu la reconnaisses. »
Honnêtement
etc.
Catherine, on parle d'une semaine de vacances. Pendant une semaine, qui c'est qui peut faire des efforts là?
Évidemment,
tout le monde un petit peu.
Je pense que de toute façon, à partir du moment où on est reçu quelque part, c'est la loi du lieu où on est reçu.
Celui qui est le chef de la maison, c'est le chef de la maison.
Voilà,
un petit peu, quand
c'est
même,
les règles de la maison, et si on ne veut pas des règles d'une maison, on n'y va tout simplement pas, voilà. En effet.
C'est ça.
Oui, parce que si tu es à Rome, vis comme les Romains, et si tu n'es pas content, tu vas ailleurs. Donc à
exactement.
Partir de ce moment-là, on est sous son toit, donc peut-être sous ses règles.
C'est
donc
ça.
Il faut peut-être concilier les choses. Surtout que souvent, on va s'engueuler pour des broutilles, l'heure du coucher, le repas, le bain, des choses qui peut-être n'ont pas un réel impact sur l'éducation et l'évolution même du couple ou même de la façon dont on voit avec éduquer les enfants.
Oui, surtout qu'en général, de toute façon, il faut bien se dire que les vacances sont des temps hors du réel de la vie de tous les jours, hors du quotidien. Donc, il n'est pas question de dire, si vous commencez à lui donner des gâteaux maintenant, moi, je ne pourrai plus les tenir ensuite. Les vacances doivent avoir des allures de vacances. Les dodos des vacances sont les dodos des vacances. Les autorisations de sortir de table ou pas, qui sont dans un lieu ou dans un
autre. Puis elle a envie, la belle-mère, d'élever les enfants pendant une semaine qu'elle s'en occupe, non?
Mais même plus longtemps, on sort d'un confinement très compliqué. Donc, il n'y a aucun problème.
Même deux, trois semaines.
Mais oui, sans problème. Mais s'il y a un conflit entre la mère et la belle-fille, mais le mari doit prendre le parti de qui? Celui de sa mère ou celui de sa femme? C'est compliqué, ça.
Eh bien, je dirais qu'il doit dire à sa maman que c'est sa femme et qu'elle a besoin aussi d'être reconnue dans sa réalité parce qu'elle n'est pas sa petite fille. Ceci étant, dire aussi à son épouse qu'elle soit un peu plus, qu'elle n'ait pas peur de perdre son rôle puisque son rôle restera définitivement son rôle. Quand bien même la grand-mère serait merveilleuse pour les enfants, la maman reste la maman, donc il n'y a pas de peur à avoir.
Voilà, merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans son rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h.